Bonjour Adicias et bienvenue dans Côté Cour, Côté Jardin. En partenariat avec le Théâtre Plus Cinéma, scène nationale Grand Narbonne, on va discuter durant la prochaine demi-heure avec les artistes qui viennent se produire chez nous. Et aujourd'hui, pour cette première émission, je suis avec Romy Estève et on va parler notamment du spectacle « Vous qui savez ce qu'est l'amour » présenté jeudi 27 au Théâtre. Bonjour Romy, Adicias.
Adicias.
Avant de parler de ce One Woman Opéra, je veux savoir un peu qui est Romy, d'où elle vient, ce qu'elle aime.
C'est difficile de résumer en deux mots comme ça vite fait, mais je suis originaire de Dordogne, donc un petit département d'Aquitaine, assez reculé, donc vraiment de la campagne. Et puis j'ai fait mes études à Bordeaux. J'ai depuis presque toujours dans mes souvenirs balancé entre la danse et le chant. Enfin, j'ai toujours fait les deux. Assez tardivement, j'ai rencontré l'opéra. Mais si, d'ailleurs, c'est assez normal de rencontrer l'opéra tardivement parce qu'il faut être un petit peu. Faut pas être un enfant pour chanter de l'opéra, donc voilà. Mais à partir d'un certain moment, l'opéra a pris un petit peu plus de place dans ma vie. Mais j'ai toujours gardé, voilà, j'ai été au conservatoire en art lyrique et en danse contemporaine. Le théâtre est venu se greffer un peu naturellement sur tout ça, sur le terrain, hein, sur le tas, hein, avec les expériences. Voilà, beaucoup d'impro aussi, des stages d'improvisation, d'expérience en improvisation. Et donc, ça donne un profil assez particulier d'une chanteuse qui a envie de se servir de tout son parcours pour créer des formes au plateau qui me correspondent et qui sont assez singulières. Mais voilà, enfin, c'est pas si singulier. Ce qui est singulier, c'est que ce soit porté par la même personne. Voilà.
Qu'est-ce qui a fait déjà, avant de parler de ce lien avec l'opéra et le théâtre, qu'est-ce qui a fait déjà qu'avec la musique, il y a eu cet intérêt, il y a eu un déclic? Parce que je crois d'ailleurs vous avez fait aussi une licence en musicologie. Donc, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on dit, c'est là-dedans que je veux aller?
Oh, ben ça, c'est très, très, très tôt. Alors, une famille de musiciens, un petit peu quand même, enfin, en tout cas, mon père, que j'ai perdu quand j'avais 5 ans. Et je pense que c'est un lien filial que j'ai voulu inconsciemment maintenir avec lui, que c'était une manière de le faire exister en moi. Et voilà, c'est ce que je me raconte a posteriori. Quand je suis enfant, évidemment, je me rends pas compte de tout ça. Mais en tout cas, ce qui était sûr, c'était que c'était sur scène, que ça allait se passer sur scène. Ça, c'était vraiment depuis vraiment, mais je sais pas, depuis que j'ai 5 ans, voilà. Et après la musique, il y a quelque chose qui est très naturel et qui m'a toujours et la voix qui m'a toujours suivie, que j'ai toujours suivie. Enfin, je sais pas dans quel sens ça se passe, mais puis après, c'est un peu la vie, c'est les rencontres. C'est aussi pourquoi l'art lyrique. Là, je ne sais pas trop, parce que c'est vrai que ma culture musicale, la culture musicale de ma famille ne vient pas du tout de là. Mais je pense que ce qui m'intéressait, c'était le côté extrêmement exigeant et un travail, c'est ce que je dis dans mon spectacle d'ailleurs, c'est un travail qui ne s'arrête jamais. C'est toujours possible de progresser, c'est toujours possible d'étendre encore les possibilités jusqu'à très tard dans la vie. Et ce challenge-là, cette recherche permanente, cette quête, en fait, c'est un petit peu d'ailleurs la même quête que j'ai avec l'idée de faire des spectacles, parce que j'aurais pu rester interprète, mais c'est de chercher une forme qui veut dire quelque chose, une forme expressive, et de la chercher profondément et dans la matière vocale et dans la technique, mais aussi dans la forme du spectacle, dans l'écriture, etc. Et je pense que l'art lyrique, c'est une des formes chantées qui demande le plus de travail, le plus de recherche, aussi le plus de naturel. C'est ça peut-être qu'on ne sait pas dès le départ, mais parce que quand on entend une voix lyrique, on a l'impression que c'est totalement fabriqué, que ce n'est pas du tout naturel, que c'est très sophistiqué, etc. Mais en fait, le travail, il est vraiment hyper proche de la de l'anatomie, de l'organicité de la voix, de la morphologie, de la nature, des élans émotionnels. Donc, on est vraiment sur une base très, très juste. On cherche la justesse tout le temps. Et je pense que cette recherche de justesse me touche et m'intéresse au plus profond.
C'est ça, c'est ce que vous dites. C'est finalement pour arriver à ce résultat, ça demande, et c'est ce qu'on le grand public ne se rend pas compte, ça demande derrière du travail, des recherches absolument phénoménales pour arriver à ce résultat. Voilà, c'est comme vous dites, vous parlez de morphologie, d'anatomie, c'est des choses auxquelles on ne pense pas.
Oui, et d'ailleurs, bon, suivant les approches, on pense pas toujours à, on n'a pas toujours cette perception-là. Hein, quand on chante, on se dit pas, il faut que je, enfin, parfois si, on se dit, il faut que je soulève le voile du palais, par exemple, mais on parle pas vraiment d'anatomie. Il y a plein de muscles, il y a plein de, puis de toute façon, c'est très corporel, c'est très global. Hein, ça se passe pas que dans le larynx. Mais effectivement, ça se passe par ce qu'on appelle la proprioception, c'est-à-dire la conscience. La conscience du mouvement, la mémoire du mouvement dans le corps. Les danseurs travaillent beaucoup avec ça et les chanteurs aussi, parce qu'on ne peut pas voir ce qu'on fait. On ne peut pas le voir de l'extérieur, quoi. On a une sensation intérieure. Et je me suis un peu perdue dans ce que je racontais, mais enfin, en tout cas, on aiguise beaucoup cette conscience-là et on travaille beaucoup par l'expérience, par la sensation, par la connaissance, par le fait de répéter, par le fait de chercher aussi à répondre aux exigences d'une musique et d'un style musical et d'une annotation d'un compositeur sur une partition, d'une exigence aussi de technique, hein, par exemple les aigus, par exemple, enfin, tout un tas de choses, voilà. Qui nous font progresser et qui nous maintiennent comme un sportif de haut niveau, vraiment à un niveau de technique et et d'éveil assez haut.
Est-ce que c'était d'une certaine façon logique quand vous êtes passé donc de la musique, l'art lyrique, l'opéra? Est-ce que c'est une suite logique pour vous?
Je dirais pas que non, enfin, je dirais.
C'est pas
je
évident.
Je ne mettrais pas forcément ça dans cette chaîne-là. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse aussi beaucoup, moi, dans l'opéra, c'est tout le côté théâtral et le côté scénique, en fait. C'est-à-dire que la musique, c'est très important pour moi et j'adore aussi faire des récitals où il n'y a pas du tout de notion d'engagement scénique plus que de l'histoire qu'on est en train de raconter dans l'air ou dans la mélodie qu'on chante, mais... Ce qui m'intéresse beaucoup à l'opéra, c'est le jeu aussi. Et donc, je ne peux pas défaire, je ne peux pas enlever ça de mon métier. Pour moi, c'est très important. Et c'est d'ailleurs pour ça que je crois que je suis passée de l'autre côté et que j'ai monté ma compagnie et que j'écris des spectacles. Et voilà, si je n'avais pas cet intérêt-là, je serais restée simplement interprète, me semble-t-il. Voilà, j'ai envie de... J'ai envie... Pour moi, et d'ailleurs, c'est assez... significatif que les noces de Figaro, donc c'est l'œuvre qui est à la base du premier spectacle que je vais donc jouer à Narbonne. Là. La musique de Mozart est extrêmement dramaturgique, enfin, elle est porteuse, évocatrice, c'est du théâtre en fait cette musique. C'est de la musique, c'est de la musique pure, mais c'est du théâtre, elle raconte beaucoup, 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 beaucoup de choses. Et je pense que Mozart, il avait un intérêt. Un très très grand intérêt pour le théâtre, pour le dire, pour trouver la forme aussi, même s'il est dans une époque musicale où c'est extrêmement codifié et où il a à sa disposition finalement des éléments qui sont assez restreints dans un style classique qui est une époque de l'histoire de la musique très très courte avec des codes très précis et il arrive à en faire une musique extrêmement évocatrice, complexe et expressive.
Alors, avant de parler justement donc de ce spectacle, vous qui savez ce qu'est l'amour, on va marquer une courte pause musicale et on va s'écouter justement l'acte 1, donc le morceau numéro 1.
Ouh, l'acte 1.
C'est ça. Les notes, c'est di Figaro, 5, 10, 20, 30. Thank you.
venti, trenta, trenta sei, quaranta tre.
Or sì, io son contenta, sembra fatto in ver per me, sembra fatto in ver per me.
Cinque. Venti, trenta,
guarda adesso il mio cappello,
trentasei,
guarda adesso il mio cappello,
quarantatré,
oh mio caro figlio, guarda adesso il mio cappello, il mio cappello, il mio cappello.
Sì, mio cuore, or è più bello, sembra fatto in ver per te, sembra fatto in ver per te.
Guarda un po',
sì, mio cuore, or è più bello.
Ora sì che io son contenta, ora sì che io son contenta,
bello,
sembra fatto in te, per te,
per te. Questo bel cappellino vezzoso, che s'usanne la stessa stipe, che s'usanne la stessa stipe,
s'usanne
la stessa,
è la stessa,
che s'usanne la stessa stipe, stessa stipe, stessa stipe.
Voilà, de retour, toujours avec Romy et Steve, pour parler donc du spectacle « Vous qui savez ce qu'est l'amour », présenté au Théâtre plus Cinéma Scène Nationale Grand Narbonne. On parlait donc de ce spectacle, de la musique, là, donc, qui est jouée donc, de Mozart. Dans ce spectacle que vous présentez, il y a bien sûr la musique de Mozart, mais pas que, vu que c'est une performance lyrique et théâtrale, mais il y a aussi de la guitare.
Et oui. Alors, un chanteur, il faut qu'il soit accompagné. Ça, c'est en général, c'est comme ça que ça se passe. Et moi, pour ce spectacle, j'avais pas du tout la sensation qu'il fallait au piano ou un quatuor à cordes, par exemple, pour rester dans quelque chose d'assez classique. Et je pensais qu'il fallait un contre-pied, qu'il fallait quelque chose d'assez malléable et que déjà une personne, c'est mieux que trois ou quatre. Et j'ai choisi la guitare parce que c'est un instrument qui traverse toutes les époques, qui traverse tous les styles de musique, qui traverse toutes les classes socioculturelles qui fait un lien, un pont entre tout un tas de choses et de considérations. Et pour ce spectacle, il fallait vraiment pour moi que j'ai un instrument sur lequel je pouvais m'appuyer et qui puisse raconter tout ça, évoquer tout ça. Alors la guitare, c'était assez courageux parce que Mozart n'a jamais écrit pour la guitare.
D'ailleurs, guitare électrique, précisons aussi.
Oui, alors, bon, c'est un guitariste électrique et c'est un guitariste classique aussi. Mmh. C'est très important parce que Mozart, ça ne se joue pas comme ça. Déjà, il faut l'arranger, et c'est très virtuose. Donc, le guitariste que j'ai choisi, il n'y avait pas beaucoup qui étaient capables de faire ça. Il fallait vouloir déjà et puis y arriver. Donc, arranger tout un opéra. Alors, évidemment, on ne fait pas tout l'opéra, mais arranger Mozart pour la guitare, pouvoir le jouer, que ce soit joli, que ça sonne bien. Et ensuite, moi, ce qui était important, effectivement, aussi, c'était de pouvoir décliner cette musique-là avec un instrument électrique et des sons qu'on n'attend pas forcément dans cette musique classique. Mais c'est très, très réussi. Et puis, ça tombe plutôt bien parce que dans l'opéra, à plusieurs moments, la guitare est nommée. Il y a une petite sérénade à la fin où vraiment l'orchestre est censé imiter le son d'une guitare ou d'une mandoline qui accompagnerait une sérénade. L'air de Figaro quand il dit c'est vol ballare, donc c'est vol. Si vous voulez danser, c'est moi qui vous jouerai la guitare. Enfin voilà, il y a plusieurs moments, endroits où cette guitare est évoquée. Donc voilà pourquoi j'ai choisi cette guitare. Et le guitariste est merveilleux, c'est formidable ce qu'il fait.
Est-ce qu'aussi, là on va parler un peu de la création, s'emparer d'une œuvre aussi forte, donc Les Noces de Figaro, la revisiter, c'était pas comment je peux dire ça, un beau défi pour ce spectacle, d'arriver voilà, de s'emparer d'une œuvre aussi forte et de la faire vôtre?
Ah si, c'est un énorme défi. C'était un grand défi, mais en même temps, c'était... Bon, j'ai mis du temps à écrire tout ce spectacle, hein, donc aujourd'hui, avec le spectacle qui est là, et qu'on peut le voir, on peut prendre du recul, on peut le voir, on peut le cerner, je suis assez contente et fière de comment ça s'est passé, et je sais que toutes mes décisions, tout ce qu'on a décidé de faire, enfin, tous mes angles d'attaque, d'approche, l'écriture, etc., ont un ancrage et une nécessité, une argumentation possible. Enfin, je veux dire, c'est pas... c'est vraiment... je pense que quand on travaille, quand on rentre vraiment dans l'œuvre, et pour le coup, avec Les Noces de Figaro, il y a vraiment de quoi faire. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des œuvres qui sont moins inspirantes. Celle-ci, elle est très, très dense, mais elle est extrêmement inspirante à plusieurs niveaux, et moi j'ai vraiment essayé de me mettre en symbiose avec Les Noces, et à essayer de connecter mon cerveau, quoi, et mon histoire avec cette œuvre-là, et donc voilà, j'ai trouvé plusieurs angles d'approche, et ce qui m'intéressait, c'était de raconter Les Noces, mais c'était de raconter aussi mes noces, si je puis dire, ma rencontre avec cette œuvre, et puis ma vie de chanteuse, des choses qui peuvent aussi intéresser un peu le public, de pouvoir rentrer un peu dans l'envers du décor d'une pièce et d'une production d'opéra et d'une vie de chanteuse.
Alors justement, c'est ça, on va peut-être le rappeler, Les Noces de Figaro, qu'est-ce que ça raconte et qu'est-ce que vous racontez dans ce spectacle ?
Alors là, je ne peux pas vous raconter Les Noces de Figaro parce qu'il me faut au moins 1h45, c'est le temps du spectacle. Et même à la fin du spectacle, en général, on ne sait toujours pas, on n'a toujours pas bien compris, mais c'est normal. c'est le truc drôle avec Les Noces de Figaro, c'est que c'est irracontable, en fait. Mais c'est le défi que se lance ce personnage que j'interprète, de raconter à travers le rôle de chérubin. Donc ça, c'est vraiment la pierre angulaire. Le rôle de chérubin, c'est le rôle qui me permet de rentrer dans l'œuvre et qui est le rôle qu'on me donnerait à l'opéra, si je devais chanter cet opéra conventionnellement, enfin dans un opéra normal, on me donnerait chérubin, parce que c'est un rôle de mezzo-soprano. Moi, je suis mezzo-soprano. Mmh. Or, dans Les Noces de Figaro, les rôles féminins sont assez centraux. Par exemple, c'est pas pareil dans La Flûte enchantée, où on a des sopranos coloratours, des sopranos vraiment... voilà. Et dans Les Noces de Figaro, moi, je peux chanter à peu près tous les rôles féminins. Donc, je me fais plaisir et je les chante. Donc, en fait, en partant du personnage de chérubin, avec lequel je rentre vraiment dans une grande, grande, grande sympathie, je pars et je joue et je raconte son histoire. Et je veux jouer Cherubino, et pour jouer Cherubino, il faut raconter son histoire et il faut commencer à prendre l'accent italien parce qu'il est italien. Et en fait, non, il n'est pas italien, ça se passe en Espagne, mais bon, c'est toujours en italien les opéras de Mozart avec Lorenzo da Ponte. Et donc, à partir de là, je commence à raconter son histoire, raconter mon histoire. Enfin, on ne sait plus trop où on est, en fait. On ne sait plus trop si on est derrière une représentation, parce que le décor offre un envers de décor. Donc, on pourrait croire qu'il y a une représentation derrière qui se fait, qui est en train de se faire, ou une répétition, parce qu'il y a des sons aussi qui nous arrivent, des sons off qui sont diffusés pendant le spectacle d'une répétition d'opéra. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup d'informations. Mais ça part de cette relation avec Cherubino qui raconte sa folle journée. La folle journée, c'est le sous-titre des Noces de Figaro. Et ce qui me plaît beaucoup avec ce personnage de Cherubino, c'est que lui, il essaye de comprendre parce qu'il est adolescent, il arrive dans le monde des adultes. Il pense que ça va se passer d'une certaine manière, que les adultes vont être sages, raisonnés, bien élevé, équilibré, mais c'est pas du tout le cas. Il arrive dans un monde assez chaotique où on se rend compte que surtout quand il s'agit d'amour, on en est tous au même niveau et ça évolue pas beaucoup. Voilà. Et donc, il raconte son histoire et il joue les personnages parce qu'il est tellement investi dans son histoire qu'il joue le comte, il joue la comtesse, etc. Et puis, à un moment donné, dans l'opéra, Cherubino s'en va. Il se cache, en fait, parce qu'il est tout le temps poursuivi par ce comte. Il lui arrive tout le temps d'aller se réfugier dans les jupons d'une femme. Mais comme le comte court après toutes les femmes, il arrive toujours sur Cherubino. Mais Cherubino, qui n'est plus un enfant maintenant, ça devient un rival potentiel. Et le comte, ça le met hors de lui. Et donc, Cherubino se cache. Et donc, à partir de ce moment-là, pour moi, c'est l'occasion d'opérer un basculement dans le spectacle et de me mettre à interpréter les personnages pour de vrai avec des costumes. Alors, j'utilise des éléments de costume, hein, je sais pas. Mais ça rajoute encore des couches d'épaisseur, quoi. Ça rajoute de l'épaisseur de jeu, ça rajoute des personnages que je joue vraiment avec des costumes, donc qui ont un peu leur indépendance et qui racontent leur histoire à eux maintenant. Et plus l'histoire de Romy qui continue donc mon personnage qui continue à s'étoffer et à raconter qu'est-ce que c'est que le chant, comment on fait, tout ce à quoi on doit se confronter et voilà, je raconte pas tout parce que au bout d'un moment on se laisse porter, en fait il y a tellement d'informations que le but du jeu c'est de prendre ce qu'on peut prendre et de se mettre en vibration, en fait.
Est-ce que peut-être pour conclure, on arrive à la fin de l'émission, est-ce que jouer, chanter, voilà, c'est un spectacle chanté et joué, bon, à l'italien et en français, ça ne fait pas d'une certaine façon plaisir de le présenter, surtout en ces temps si compliqués pour les artistes, pour le monde du spectacle, de jouer, de se présenter devant un public aussi, qui est un public. Est-ce que ça ne fait pas, en fait, voilà, on peut jouer, c'est permis, on a des gens qui viennent nous voir, ça fait du bien aussi.
Ah bah là, oui, évidemment, c'est très signifiant, très, très fort en ce moment. Quand on se retrouve sur scène, on sait quelle chance on a, quoi. Mais bon, j'ai toujours ressenti ça, hein. C'est vrai que la période qu'on vit est très particulière et elle bride, elle brime, elle complique, c'est tellement simple d'être sur un plateau et sur des tréteaux, j'ai envie de dire, et de raconter une histoire ça devrait être beaucoup plus constant. Mais la distance est vraiment caractéristique de cette période. On parle d'ailleurs, il y a des nouveaux mots qui sont arrivés, présentiel, distanciel. Là, c'est ce qu'on est en train de faire d'ailleurs. Alors, c'est pratique, hein, il y a des choses qui sont pratiques, mais il n'y a rien qui remplace le spectacle vivant, qui remplace la proximité, la présence au sens physique, mais au sens du temps aussi, d'un jeu et d'un échange. Vraiment, il n'y a rien qui remplace ça. C'est ce que je me dis là en ce moment, parce que j'ai enchaîné un peu les dates et ça faisait un moment que ça ne m'était pas arrivé de partir en tournée.
Une tournée.
Oui, ben on appelle ça, dès qu'on enchaîne quelques dates, on appelle ça comme ça, mais c'est irremplaçable. C'est comme ça c'est notre métier, c'est ça en fait, c'est d'être sur scène et c'est comme ça qu'on le fait, c'est comme ça qu'on progresse, c'est comme ça qu'on se ressource, c'est comme ça que le spectacle il évolue. Et moi, effectivement, si j'ai choisi d'être sur scène avec une proposition si intense, si physique, si un peu basée sur la performance, etc., sur la générosité du jeu, c'est que c'est très important pour moi. Et donc, oui, c'est un grand, grand plaisir. Je connais ma chance de pouvoir jouer là, cette semaine, à Narbonne.
Romy Estève, merci beaucoup donc de nous avoir parlé un petit peu de vous et donc de ce spectacle. Vous qui savez ce qu'est l'amour, donc à retrouver donc cette semaine au Théâtre Plus Cinéma Scène Nationale Grand Narbonne. Merci. Puis on peut que vous souhaiter un excellent spectacle et beaucoup, beaucoup de public et beaucoup d'amour, du coup.
Eh oui, il en faut. Merci, à bientôt.
Merci. J'espère.